7h41 sur France Culture. Et merci pour ce hashtag parce qu'il me fournit une transition toute trouvée avec notre invité Alain Damasio. Bonjour Alain Damasio.
Bonjour.
Vous êtes romancier de science-fiction, pourrait-on dire, de politique-fiction. Je vais quand même vous présenter, pour ceux qui ne vous ont pas encore lu, vous êtes très célèbre dans le milieu de la science-fiction, car vous avez aujourd'hui une tribu assez importante qui vous suit, qui connaît vos romans, La Zone du Dehors, La Horde du Contrevent, qui est actuellement d'ailleurs adapté en bande dessinée par Éric Hénineau. Et on peut dire que vous décrivez des dystopies politiques, c'est-à-dire des sociétés démocratique, il faut le dire vite, démocratique à demi et à demi totalitaire, dans lesquelles les citoyens se contrôlent mutuellement avec justement des dispositifs de contrôle tels que par exemple le Facebook Live auquel vous êtes soumis en ce moment même. Et je vous ai vu écouter attentivement ce reportage sur la police, Alain Damasio.
Oui, c'est un sujet assez central dans les dystopies de science-fiction. C'est comment
une dystopie, c'est une
anti-utopie en fait. C'est une utopie qui tourne mal et qui souvent décrit un monde totalitaire ou en tout cas un monde démocratique mais perverti. Moi, j'aime beaucoup ce type de d'anticipation là. C'est ce que j'avais essayé de faire dans La Zone du Dehors, c'est-à-dire un monde où effectivement les sociétés de contrôle décrites et anticipées par Gilles Deleuze et Michel Foucault.
Deux philosophes donc.
Voilà, deux philosophes, parce que c'est souvent en philosophie qu'on trouve, je trouve, les ferments les plus intéressants pour ce qui va se passer dans l'avenir. Et c'est un monde effectivement où il y a un classement généralisé de la population. Chacun d'entre nous classe les autres, évalue les autres. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai écrit ça en 92 et c'est ce qu'on voit advenir dans nos quotidiens avec la notation des hôtels, des restaurants, chacun vote et évalue son subordonné, son supérieur, ses proches. Et c'est un type de monde où voilà le contrôle va être croisé, tissé, horizontal, partagé, avec tout le côté assez angoissant que ça comporte. Quoi.
Et pour continuer à présenter votre œuvre et votre travail, Alain Damasio, il y a chez vous une tentative de créer une œuvre d'art globale. Donc vous écrivez, puisque vous êtes romancier, mais ces écrits s'accompagnent souvent de sons, de musique, de créations originales. On va écouter par exemple un extrait de la fiction radiophonique Fragment hacké d'un futur qui résiste, qui a été le lauréat 2015 du Grand Prix de la fiction radiophonique.
Mademoiselle Becky, votre statut ne vous permet malheureusement pas de circuler dans cette rue. Nous vous demandons de rebrousser chemin et d'emprunter les itinéraires publics. Ceci est une première sommation.
Je vous demande de soulever votre robe pour vérification. Votre profil potentialise un attentat à la ceinture piégée.
J'ai perdu les os! Laissez-moi passer!
Merde!
Nouveau message furtif. Votre opérateur ne peut pas authentifier ce coup.
Décryptage.
Paul, tu es où? On s'inquiète vraiment pour toi. Ici, c'est les maths, je te jure. Rappelle-nous dès que tu peux.
Un extrait donc de cette fiction radiophonique que vous avez réalisée, Alain Damasio. Elle a été mise en forme et en son par Tarabus, Floriane Pochon et Tony Regnault. Qu'est-ce que vous avez tenté de faire?
Ah, on a tenté quelque chose d'assez original, c'est-à-dire qu'on a tenté de faire du sound footage, c'est-à-dire qu'on a on a tenté de montrer ce que serait le futur en 2040 en prélevant des fragments hackés, comme ça, des fragments qu'on aurait prélevés sur le réseau et qui, mis bout à bout, permettraient de raconter une histoire. Et cette histoire, elle est très simple. C'est une insurrection dans une ville du futur qui a été entièrement privatisée. C'est les multinationales qui gèrent ces villes. Alors on paye plus d'impôts, c'est magnifique, on paye des forfaits, privilèges, premium ou standard. Sauf que si vous avez un forfait standard, vous n'avez accès qu'à 50% des rues de la ville, des places de la ville, des squares de la ville, alors que le forfait privilège vous donne accès à tout. Et là, c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui n'a qu'un forfait standard, qui est enceinte, qui perd les os et qui veut couper par une rue privilège pour atteindre l'hôpital. Et à ce moment-là, elle est arrêtée par un drone, puisque bien sûr chaque personne est géolocalisée. Et ce drone est parfaitement au courant qu'elle n'est pas, qu'elle n'a pas le évidemment le forfait adéquat pour être dans cette zone. Et le drone, voilà, fait une frappe sonique, lui fait perdre son bébé et elle en meurt au final. Et ça génère une insurrection dans la ville du futur. Et donc, j'essaye de mettre en scène le, à la fois tout le mouvement de lutte contre cette privatisation rampante et assez, assez angoissante de la ville. Et comment le pouvoir, de son côté, lui, va contre-gérer cette révolution et va finir par manipuler adéquatement les citoyens pour que, finalement, ils continuent à imposer ce système de...
on l'entend, Alain Damasio, dans le futur que vous décrivez, il y a beaucoup de fragments du présent. Il y a un présent donc qui est encore une fois une forme de dictature molle. C'est la raison pour laquelle vous êtes devenu une sorte d'icône pour une partie de la gauche radicale, même si des auteurs très éloignés de la gauche radicale comme Tocqueville parlaient de cette dictature molle. Ouais, vous en sentez l'avènement aujourd'hui de ce type de régime?
Oui, et puis surtout, je sens que ce c'est pas quelque chose qui s'impose du haut, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui s'impose du gouvernement ou par les médias ou par les pouvoirs établis. C'est quelque chose qu'on relaye tous à notre niveau, quoi. C'est-à-dire que ce monde de contrôle, cette société de contrôle, j'ai l'impression que ça c'est vraiment une demande sociale. C'est vraiment acté par énormément de personnes et de citoyens. Et du coup, c'est là que c'est difficile à combattre parce que on ne peut pas se sentir abstrait ou en dehors de ces mécanismes de contrôle. Généralement, on les active tous à nos niveaux. On est tous là à noter le moindre restaurant qui nous a déplu, à critiquer tel hôtel parce qu'il n'a pas été satisfaisant. On adore ces processus d'évaluation, ces processus de... Et ça nous donne le sentiment de maîtriser, de contrôler à notre tour, d'avoir un pouvoir sur ce monde qui est par ailleurs assez difficile à maîtriser, quoi. Donc c'est très ambigu.
Pourquoi avez-vous choisi d'écrire de la science-fiction, Alain Damasio ?
Alors c'est on choisit pas en fait, hein. C'est la science-fiction qui m'a un peu choisi, mais la grande raison c'est la liberté, quoi. C'est-à-dire c'est une littérature qui permet absolument tout, qui permet de jouer avec les niveaux de réalité, qui permet de jouer avec des stylistiques très très particulières. Moi j'utilise par exemple beaucoup la polyphonie, j'utilise des méthodes narratives qui sont relativement rares, et du coup la science-fiction permet ça, permet cette liberté que ne permet beaucoup moins, à mon sens, la littérature qu'on appelle générale ou blanche, ou la littérature de genre un peu trop fermée. Donc c'est le règne de l'imaginaire, dans toute sa splendeur. Et surtout, je trouve que c'est la littérature politique par excellence, c'est celle qui permet le plus d'envisager des enjeux politiques.
Dans vos références, il y a beaucoup de philosophes, vous avez parlé de Deleuze et de Foucault, on aurait pu parler de Nietzsche aussi, mais est-ce qu'il y a des références en science-fiction? On pense évidemment à Orwell.
Ouais, bien sûr. C'est difficile d'échapper à Orwell, hein. Et surtout aujourd'hui, je trouve qu'il y a énormément de choses qui reviennent. Là, déjà, je pensais à un procès tout récent dans lequel j'ai essayé de commenter que c'était le procès de Valmy, de la voiture de policier qui a été...
Rappelez-nous ce qu'est ce procès.
C'est un procès extrêmement intéressant parce que c'est en fait le mouvement antifasciste, c'est un mouvement d'extrême gauche qui se bat contre les abus policiers.
Vous en sentez proche?
Oui, je m'en sens complètement proche. Je trouve que c'est absolument nécessaire à la démocratie. Ces types de manifestations, simplement là ça dégénère à la suite d'une manifestation de policière justement, et il y a une voiture de police qui se retrouve brûlée, il y a une voiture qui est attaquée, etc. Et c'est filmé en vidéo. Et en fait ce qui est très intéressant, moi j'ai assisté au procès, c'est que c'est un procès qui a abouti à la condamnation notamment d'un jeune de 22 ans à 5 ans de prison sur un simple faisceau d'indices, en fait, faut dire les choses comme elles sont, qui a été construit à partir des vidéos de surveillance qu'on a obtenues. Donc j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un système orwellien, c'est l'image qui et des images qui montraient un sac à dos, qui montraient une chaussure, qui montraient la virgule sur une chaussure, qui montraient un caleçon d'une couleur rose ou rouge, et qui est utilisé comme faisceau d'indices, c'est-à-dire on fait converger ces différentes images pour produire une culpabilité, alors qu'on n'a ni le visage, ni l'ADN, ni aucune preuve formelle.
Mais alors que
c'est très intéressant de voir que on peut construire vraiment une culpabilité à partir de ça.
Mais alors que l'on comprenne bien, parce que donc, ouais, vous avez pris fait et cause pour ces personnes parce que vous considériez qu'elles étaient accusées à tort, ou parce que vous parvenez à justifier des actes qui ont choquer l'opinion publique à une époque où les policiers peuvent être la cible de terroristes.
Il y a deux choses. Moi, je les défends au sens où déjà c'est une accusation anonyme. qui a été faite donc par un policier. Et le problème de l'accusation anonyme, c'est qu'elle ne permet pas au droit de la défense de s'exercer. C'est-à-dire que ce policier n'a pas pu être interrogé par les avocats de la défense. Et ça, évidemment, ça fausse complètement le processus judiciaire. Et ensuite, parce qu'effectivement, politiquement, il y a énormément d'abus policiers, on le voit. Il y a un durcissement des méthodes policières dans les manifestations. Moi, je reviens par exemple de Nantes, où j'avais fait la manifestation du 21 septembre, c'est impressionnant de voir ce qu'on peut subir aujourd'hui en manifestation.
La manifestation du 21 septembre.
Ouais,
qui était contre
la loi
travail
ouais, tout à fait.
Telles qu'elles sont aujourd'hui formulées par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Il y a dans votre œuvre donc une forme de futur noir qui se mélange à aujourd'hui. Est-ce que vous vous considérez comme un auteur de science-fiction ? Parce que, par ailleurs, on n'a pas l'impression que vous soyez un grand lecteur de science-fiction.
Non, je suis un grand lecteur de philosophie, vous l'avez cité, je me considère comme un Deleuzien, un peu.
Qu'est-ce que ça veut dire, un Deleuzien ?
Un Deleuzien, c'est quelqu'un qui considère que le critère numéro un, c'est la vitalité, c'est le vitalisme, c'est-à-dire que le vivant doit être central dans la réflexion et que les processus de dévitalisation qui sont à l'œuvre aujourd'hui sont fondamentaux.
Vous les voyez où ces processus
de un peu partout. C'est-à-dire que je considère notamment que les technococons ou les conforteresses dans lesquelles on a tendance à vivre aujourd'hui produisent une sorte de conjuration comme ça de l'altérité, une conjuration de tout ce qui peut nous perturber, par exemple les migrants, par exemple des systèmes de valeurs qui ne correspondraient pas. Donc
expliquez-moi ça, parce que vous raccourcis.
Oui, raccourcis sont très rapides peut-être. Simplement, j'ai le sentiment que, alors là c'est vraiment l'anthropologie, que l'espèce humaine, sa noblesse, sa dignité, vient du fait qu'elle s'est confrontée à ce qui était vraiment l'altérité, c'est-à-dire tout simplement les animaux sauvages, la nature, le froid, la maladie, les conditions de la finitude humaine comme le vieillissement, la mort, etc. Et que face à cette altérité-là, elle a réussi à construire un monde qui est relativement admirable et qui a fait que l'espèce humaine a été très longtemps, je trouve, une espèce noble. Et il me semble qu'on est arrivé dans les années 70-80 à une sorte de courbe de Gauss comme ça où l'accroissement
indéfini, ça commence à décliner.
Ah voilà, ça commence à décliner. Cette espèce d'accroissement indéfini de la technologie nous a comme ça inséré dans ce que j'appelle moi une sorte d'oignon technologique ou de technococon très épais avec on est entouré d'écrans, de tablettes, de smartphones. On se complète dans cette espèce de monde filtré et on perd ce rapport vital au monde pour moi. Voilà.
Mais donc, ça veut dire que la technologie, pour vous, elle fait écran au réel, elle nous fait perdre une part de notre humanité, Alain Damasio ?
Elle fait surtout écran au réel, elle filtre le réel, c'est-à-dire qu'elle filtre le triple rapport pour moi fondamental, c'est-à-dire le rapport au monde, c'est-à-dire à la nature, à la ville, à l'environnement, le rapport aux autres, c'est-à-dire qu'on filtre de plus en plus notre rapport aux autres à travers la constitution de communauté, à travers par exemple parler de Facebook ou les réseaux sociaux. C'est une extraordinaire façon de créer des bulles comme ça d'amitié qui nous filtrent le rapport à tout ce qui nous convient pas. Et puis aussi elle nous aide à construire notre rapport à nous-mêmes. C'est vraiment le cas pour les adolescents. Moi je trouve que les adolescents se construisent énormément à travers le jeu vidéo, ce qui peut être extrêmement intéressant, mais qui fait que ce rapport peut être aussi perverti ou filtré par la technologie. Donc moi j'adore la technologie, je suis pas du tout technophobe ou.
Mais ça veut dire.
Par mais exemple, je suis technocritique par contre, voilà.
Je sais que vous n'avez pas de téléphone portable,
ouais,
si vrai, vous venez d'en acquérir un hier.
Non.
Vous n'êtes pas, par exemple, du tout sur les réseaux sociaux ?
Pas du tout, non.
Pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi vous refusez le téléphone portable, les réseaux sociaux.
Parce que moi, j'ai une conception qui est que le face-à-face, le corps à corps, les rapports directs ont une richesse et une profondeur telle que. Déjà pour exploiter ça, je n'ai pas assez de temps, et j'ai besoin d'aller au bout de ces rapports-là. Moi, je suis très nichien là-dessus, c'est-à-dire que je considère que l'homme ne va pas au bout de ce qu'il peut. Voilà, que le modèle, effectivement, ça serait le fameux surhumain dont Nietzsche parlait, qui a été tellement perverti par les nazis. Mais le surhumain chez Nietzsche, c'est l'homme qui va simplement au bout de ce qu'il peut, qui évite ces mécanismes de filtre, qui s'appuie sur ses qualités propres, c'est-à-dire les qualités d'imagination, de pensée, de perception, cette qualité d'être affecté, et qui essaye de les vivre dans la plus grande intensité possible. Et ça, je trouve que c'est déjà un temps fou pour atteindre ces niveaux-là, pour essayer de le vivre le plus complètement possible.
Mais alors, vous vivez comme une sorte d'ermite?
Pas du tout. Non, j'ai un rapport technologique. J'ai choisi d'utiliser le mail. Voilà, c'est mon pont technologique. Et ça me suffit parce que ça passe par l'écrit, j'aime bien. Je trouve que ça donne une certaine, il y a un côté asynchrone, c'est-à-dire on n'est pas obligé de répondre tout de suite, on peut construire la réponse, et puis on peut donner pas mal de profondeur et d'intimité à un mail. Par contre, tout ce qui est, Twitter, Facebook, etc., je considère que la sursollicitation est telle que, moi, elle me ferme le monde plutôt qu'elle me l'ouvre.
Mais voilà, d'ordinaire, les auteurs de science-fiction ne sont pas tous des technophobes. Alors, c'est compliqué de faire des généralités pour un champ aujourd'hui aussi vaste. Mais en tout cas, vous travaillez là-dessus, vous décrivez la technologie. Est-ce que ça signifie finalement que ce futur qui fait peur, il fait d'abord peur parce que le progrès technique va dans le mauvais sens, Alain Damasio?
Non, il fait pas peur. Moi, je...
Votre futur, il fait pas très très empire.
Ouais, je travaille aussi beaucoup sur les dimensions positives. Hein. C'est quelque chose auquel je tiens énormément. C'est-à-dire que je fais de la dystopie, mais je fais aussi de l'utopie. C'est-à-dire que je montre des mondes alternatifs, enviables, des horizons désirables, des choses vers lesquelles on pourrait aller.
Parce que les réseaux sociaux, ils permettent aussi une mobilisation. Et finalement, dans les différents mondes que vous décrivez au fil de votre œuvre, dans la zone du dehors ou dans la horde du contrevent, il est toujours question, Alain Damasio, d'un pouvoir mou qui écrase les individus, non pas par la terreur, mais plutôt par le bonheur ou par une sensation, évidemment, de bonheur. Les réseaux sociaux, ils permettent des mobilisations. On a vu avec, peut-être la première fois était-ce avec le printemps arabe, des formes démocratiques naître sur les réseaux sociaux.
Bien sûr, et puis permet à des communautés qui n'existaient pas avant de se créer. Moi, je suis pas opposé, si vous voulez, au principe même du réseau social. Simplement, quand il est utilisé comme un filtre pour ne plus être confronté à ce qui n'est pas nous, et pour encore une fois conjurer l'altérité, je trouve ça dangereux. Voilà. Maintenant, il y a des moments où les réseaux sociaux ont été extrêmement précieux et où ils permettent effectivement de créer des collectifs ou de faire émerger des collectifs qui n'auraient pas émergé sans le numérique. Donc c'est une force aussi, quoi. Ça, c'est...
On pense, en vous écoutant, à un autre auteur de science-fiction qui est extrêmement célébré, Philip K. Dick. Philip K. Dick, c'est notamment celui qui a inspiré Blade Runner, dont aujourd'hui la suite est présente sur les écrans, avec aussi une dimension un peu paranoïaque. Philip K. Dick,
très fort, ouais.
De différents problèmes psychiatriques, donc c'était une vraie paranoïa au sens propre du terme. Est-ce que vous reconnaissez, non pas dans la pathologie de K. Dick, mais dans sa crainte du monde qui vient?
Oui, moi, j'ai pas la crainte du monde qui vient. J'ai plus la volonté d'avoir une visée très critique et une sorte d'attention, de vigilance très forte sur ce qui arrive. Mais je suis pas du tout dans les mécanismes d'angoisse ou dans le post-apocalyptique ou dans ce jeu avec la peur. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse pas de jouer avec la peur. Ça m'intéresse de jouer avec la conscience des gens. Voilà, de dire attention, regardez ce qui arrive, soyez conscient de ce qui arrive et sachez que ce qui arrive, c'est vous qui l'avez en main. Quoi.
La science-fiction, elle permet de toucher des jeunes. Des très jeunes aussi, énormément, Alain Damasio, ouais. Et ça, c'est ce qui confère à votre voix aussi une singularité.
Moi, je suis très étonné dans le public que j'ai. Effectivement, il y a énormément de jeunes, et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir, parce que j'ai l'impression que ça touche effectivement, ce que j'écris touche des enjeux qui correspondent à ce que les
jeunes... Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes ?
Ils sont extrêmement en demande par rapport au rapport à la technologie, justement. C'est quelque chose qui est très difficile à assimiler... Pour eux, ils sont nés dans ce monde technique. C'est des digital natives, c'est-à-dire ils sont nés avec Internet dans le berceau, ce qui n'était pas le cas de ma génération, et que par rapport à ça, ils ont une demande, on le sent très forte, sur comment s'approprier, comment construire un rapport à la technologie qui soit ouvert, qui soit riche, qui soit intéressant pour eux.
Alain Damasio, l'auteur de La Zone du Dehors et de La Horde du Contrevent, tous deux publiés aux éditions de La Volte et également adapté en bande dessinée par Eric Hénino, c'est chez Delcourt et ça vient de sortir. On vous retrouve aux environs de 8h20. On va écouter tous les deux les informations. Vous réagirez tout à l'heure aux actualités et aux billets politiques. Il est 8h sur France Culture.